Nous continuons nos études sur le livre de l'Ecclésiaste. On va étudier le passage Ecclésiaste chapitre 7, versets 13 et 14. On voit que c'est comme une série de sermons sur ce thème-là. Alors, on va lire les versets 13 et 14 et ensuite on va développer les idées qui sont dans ces versets-là. 13 et 14. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alors, on voit le thème vraiment de cette partie-là, et est un thème qui est le suivant. La souveraineté et la sagesse de Dieu déployées dans les afflictions des hommes. Nous en sommes à la partie 4. Donc, on avait vu qu'il y avait trois grandes idées à l'intérieur de ce passage-là, 13 et 14. On avait regardé dans les semaines précédentes que le premier point, la première proposition, c'est que les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu. On avait terminé ça la semaine dernière. Là, on va commencer à regarder cette semaine les afflictions, le fait qu'ils ne peuvent pas être évités ou éliminés par l'homme. Alors, on avait regardé dans notre dernier sermon que l'usage de la doctrine qui enseigne que c'est Dieu lui-même qui a décrété les afflictions des hommes, aussi comment elles arrivent aux hommes et pourquoi ces afflictions font partie du plan providentiel de Dieu. Nous avions vu que l'usage ou l'application de cette doctrine était triple, pour notre réprimande, pour notre consolation et pour notre exhortation. Donc, on a terminé le premier point de la proposition, qui sont les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu. On débute aujourd'hui le point 2 de la proposition. Les afflictions ne peuvent être ni évitées ni éliminées par l'homme. Alors, on va regarder aujourd'hui quatre explications concernant cette affirmation-là. La première explication, c'est que Dieu envoie les afflictions aux hommes selon qu'il le juge approprié. Deuxièmement, les vaines tentatives des hommes d'éviter ou d'amoindrir leurs circonstances affligeantes sont vraiment comme sont vaines. Et la troisième idée, c'était que le comment ces tentatives humaines doivent-elles être interprétées ou comprises? Et on va terminer par un quatrième point qui est quelques considérations complémentaires. Donc, on va regarder ces quatre explications-là en détail. La première, c'est que Dieu envoie les afflictions aux hommes selon qu'il le juge approprié. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va regarder là-dedans. Premièrement, dans sa souveraineté et sa sagesse, Dieu se réserve le droit de courber, quand on emploie le terme courber dans le verset 13, c'est vraiment l'idée que Dieu envoie des afflictions particulières. Et il envoie celles qu'il veut dans la vie des individus. Ce n'est pas dans la main des hommes. De la même manière dont le potier peut produire un vase selon un usage ou un autre, Dieu fait de même avec l'envoi d'affliction dans la vie des hommes individuellement. On va regarder deux passages des Écritures là-dessus, le psaume 135, le verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Et on a également le passage de Romains chapitre 9, les versets 20 et 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Donc, deuxièmement, le fait que Dieu envoie des afflictions aux hommes lorsqu'il le juge approprié. Le Seigneur voit les mauvaises inclinations de chacun et de quelle manière cette inclination l'éloigne de lui. Conséquemment, il sait comment courber, donc l'envoi d'affliction, il sait comment courber la vie d'un individu et bien l'ajuster. Prenons l'exemple du jeune homme riche dans l'Évangile, dans Luc chapitre 18, versets 22-23. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Pour le jeune homme riche, son problème ou inclination était la convoitise. Mais le Seigneur connaît toutes les inclinations des hommes et l'envoi des afflictions est ajusté conformément aux idoles de nos vies. Donc, les afflictions des hommes sont envoyées selon que Dieu le juge approprié. La troisième chose, on va regarder, par les circonstances affligeantes qu'il envoie. Dieu courbe dans le sens contraire, dans le but de corriger les mauvaises inclinations du cœur de chacun individuellement. Et quatrièmement, le Seigneur va maintenir la courbure, soit l'envoi individualisé et approprié, le temps qu'il le jugera nécessaire et pour les fins saintes pour lesquelles il l'a conçu. Ceci est divinement décrété et immuable, et personne ne peut le changer ou l'altérer. La deuxième chose qu'on avait dit qu'il y avait plusieurs deuxièmes, c'est les vaines tentatives des hommes d'éviter ou d'amoindrir leurs circonstances affligeantes. Donc, on dit l'homme va essayer, mais c'est vain. Lorsque c'est Dieu qui est au contrôle de façon absolue. Alors, les hommes fourniront des efforts pour éviter ou amoindrir leurs circonstances affligeantes et les emmener sous leur contrôle. Cependant, il serait sage de bien considérer les trois faits suivants. Premièrement, les hommes ressentiront toujours un certain malaise sous la houlette du Seigneur. L'affliction sera difficile à supporter. Cependant, il devra le faire jusqu'à ce que son esprit s'y soumette. On va aller regarder trois passages qui affirment cette idée-là. Jérémie, chapitre 31, verset 18. « J'entends Éphraïm qui s'afflige. » Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau indompté. Convertis-moi, et je serai converti, car tu es éternel, mon Dieu. Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et troisième passage, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ici, il y a une expression, je ne sais pas, quelqu'un qui est sous affliction sévère, qu'on pourrait dire, Et ici, l'expression qui est utilisée, nos légères afflictions. Si on est en train de dire à quelqu'un qui vit une épreuve extrêmement difficile à vivre, puis qu'on lui lit ce verset-là, il peut dire, ouais, ça paraît, tu dis légère, mais ça paraît que c'est pour toi qu'il vit. Alors, mais ici, le verset, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une comparaison entre ce que l'on vit et ce que ça va produire dans l'éternité. Parce que c'est invisible, mais ça va produire des choses éternelles, des résultats éternels. Quand on parle, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors, ce qui nous fait souffrir, Dieu s'en sert pour nous corriger, nous améliorer. Et ça dit que ça va produire un poids éternel de gloire. Alors, c'est vraiment un verset à lire et à relire et à méditer également. Donc, deuxièmement, les hommes sont sous le poids de l'affliction, qui sont sous le poids de l'affliction, désirent toujours se retirer de dessous leur croix. Ils veulent s'affranchir de la souffrance. Il est possible que cette volonté ne soit pas un péché, comme par exemple l'exemple de Christ lui-même, dans Matthieu, chapitre 26, les versets 39 et le verset 42. Verset 39. « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et verset 42, « Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Alors nous aussi, parfois, sous le poids de l'affliction, on peut demander au Seigneur d'en être, d'être affranchi de la souffrance, de sortir de l'épreuve. Cependant, comme Christ, nous devons nous soumettre ultimement et sereinement à la volonté du Père, même si nous ne comprenons pas. Nous le comprendrons dans l'éternité et nous percevrons alors toute la sagesse de Dieu. Troisièmement, si tous les efforts pour se soustraire aux circonstances affligeantes sont faits par l'homme, avec la pleine conscience du rôle actif de la main de Dieu dans ces circonstances, le résultat des efforts est sous le contrôle souverain du Seigneur qui peut permettre ou non la réussite de l'effort humain. Et la troisième idée qu'on va regarder, qu'on avait mentionnée au début du sermon, c'est comment ces tentatives humaines doivent-elles être interprétées ou comprises? Nous ne devons pas interpréter toutes les tentatives humaines comme absolument sans espoir, comme s'il n'y avait aucun remède. Car, on peut aller voir dans Genèse au chapitre 18, le verset 14, la première partie du verset 14, « Est-il rien d'impossible à l'Éternel? » Et aussi, Luc chapitre 18, verset 27, « Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et Jérémie 32, verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile? » Nous pouvons voir la vérité de cette affirmation dans le cas de Job, qui a rétabli son état premier malgré l'apparence d'un cas désespéré. Là, c'est sûr que si on regarde l'ensemble du livre de Job, on voit que Job a été très sévèrement éprouvé son cas semblait désespéré. Cependant, on sait que Dieu l'a rétabli, il l'a même rétabli dans son état original, il l'a même augmenté. Alors, on lit dans Job 42, les versets 10 et jusqu'à 13. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Les hommes n'ont pas le pouvoir de changer leurs circonstances affligeantes, à moins que le Seigneur le permette. Les afflictions sont immuables comme une montagne d'airain, même si Dieu pourrait les enlever très facilement. Considérons alors les trois choses suivantes. Premièrement, toute tentative humaine d'enlever ce que Dieu a courbé est vaine et infructueuse, à moins que le Seigneur n'y mette sa main. On peut comparer cela à un homme qui labourerait un rocher. Deuxièmement, l'utilisation de tous les moyens possibles sont sans succès si le Seigneur ne les bénit. Lamentations, chapitre 3, versets 37 et 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Rien ne peut être fait, ne peut être ou fait, sans que le Seigneur l'ait voulu ou permis. On peut aller dans Ecclésiaste au chapitre 9, versets 11 et 12. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. » Et troisièmement, les hommes doivent constamment se rappeler que leurs circonstances affligeantes sont parfaitement sous le contrôle du Seigneur, tant dans leur durée que dans leur sévérité. Les temps de Dieu et les temps de l'homme coïncident rarement. On va aller voir un exemple que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, alors, on va aller voir ce petit passage dans Jean, chapitre 7, versets 5 à 8, pour nous illustrer ce point-là. « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il m'hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Alors, on voit que dans la vie de Jésus, le Seigneur était conscient qu'il y avait un ordre d'arrivée des circonstances et des choses. Et il le disait lui-même, « Mon temps et votre temps, ce n'est pas toujours la même chose. » Alors, on se doit d'attendre le temps de Dieu dans nos circonstances affligeantes. Et la quatrième idée qu'on va regarder, c'est quelques considérations complémentaires des choses qu'on a examinées jusqu'ici. Premièrement, nous devons d'apprendre notre absolue dépendance envers Dieu, comme la lumière dépend du soleil. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de petit ou de grand. Le Seigneur sera notre pédagogue pour nous apprendre cette leçon et le travail durera toute la vie. Deuxièmement, la volonté divine est irrésistible. Lorsque le Seigneur veut une chose et que la créature en veut une autre, il est facile de prévoir laquelle des volontés s'accomplira. Allons lire Ésaïe, chapitre 46, verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. » Lorsque le bras tout-puissant de Dieu retient les efforts de la créature pour le faire plier, sont vains et ridicules. Job, chapitre 9, verset 4, « Il est habile en son intelligence et puissant en sa force. Qui lui a résisté et s'en est bien trouvé? » La seule façon de redresser ce que Dieu a courbé et dans lui soumettre humblement la demande et d'attendre patiemment sa réponse en toute soumission. Toute forme d'orgueil est à éviter absolument et risque même d'alourdir le poids de l'affliction. Psaume 50, verset 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu fait même les afflictions pour cette fin même, afin de nous amener à lui et peut manifester sa puissance et sa bonté dans la délivrance des afflictions et des détresses. Troisièmement, Dieu a signalé sa faveur à ses enfants les plus chers en faisant et en réparant des afflictions dans leur vie. Les bien-aimés du Seigneur ont souvent subi des épreuves difficiles. Cela ressort clairement dans les vies d'Abraham, de Jacob et de Joseph, qui connurent une part abondante d'afflictions. Cependant, lequel de ces patriarches n'a pas aussi reçu sa part d'une grande faveur divine? Les plus grands des hommes, comme Samson et Jean-Baptiste, sont nés de femmes naturellement stériles. Cependant, les miséricordes les plus riches ont été exercées par ce moyen. Quatrièmement, priez le Seigneur de vous montrer ce que vous gagnez par les afflictions, comme une foi plus grande, comme un amour plus profond, comme une humilité plus sincère, comme aussi un meilleur renoncement au monde, etc. Voyez ce que vous avez gagné plutôt que de penser à ce que vous avez perdu. Cinquièmement, considérez les grâces reçues pour vous avoir permis de demeurer fidèle malgré vos épreuves et vos difficultés. On peut regarder, par exemple, l'exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les épreuves, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Très intéressant à retenir cette idée-là. Mm-hmm. Sixièmement, apprenons à garder les yeux fixés sur le repos éternel et sa gloire. Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, pour que nous regardions non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Alors, si je pense que j'ai oublié de marquer dans quel épître corinthien, j'ai juste marqué Corinthiens 4, mais je pense que c'est 2 du Corinthiens 4. Et septièmement, retenons la manière idéale et appropriée de vivre nos afflictions. Au moins 3 choses à retenir. Vivons-les patiemment et sans murmurer. Proverbe chapitre 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Deuxièmement, ne sombrons jamais dans le découragement. Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et également, Job, chapitre 17, verset 9. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa foi. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Et troisième idée, soyons reconnaissants pour l'œuvre de Dieu dans nos vies, pour sa médecine spirituelle. Psaume 119, les versets 71 et 72. Verset 71, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Et verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Alors, quelques applications, des choses à mettre en pratique dans nos vies suite à toutes ces ces versets-là et ces idées-là. La première application, implorons le Seigneur de nous habituer à reconnaître sa main dans nos circonstances affligeantes. Sachons reconnaître sa souveraineté, sa sagesse et sa miséricorde en elle. Deuxièmement, si nous prions pour que le Seigneur allège notre fardeau et nos souffrances, rappelons-nous de le faire humblement et avec un esprit de totale soumission. Et troisièmement, rendons grâce pour nos afflictions. Ce sont des outils que le Seigneur utilise pour nous purifier, pour nous rendre semblables à Jésus-Christ, et pour nous apprendre à le glorifier, même dans ce que nous ne comprenons pas. Que l'Éternel soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.